Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Elle.
Crois-moi, personne ne t'a aimé aussi fort, comme une esclave, comme un chien, avec autant de dévouement que cet être que j'étais alors, et que pour toi je suis restée. Dans Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, l'héroïne déclare sa flamme et prouve que la passion emporte tout sur son passage. La raison, la pudeur des sentiments, et même parfois la volonté. À 25 ans, Alcipé découvre le BDSM et adore cette soumission volontaire à l'être aimé. L'abdication de tout orgueil, mais la joie d'être désirée. Elle raconte son apprentissage libertin, l'ambiance des clubs, le rapport avec son maître et ce premier acte très symbolique et en public, la jouissance puissance 1000. Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle.
Je m'appelle Alcipé, j'ai 54 ans, je suis dans le BDSM depuis 1995 et je suis une personne soumise. En 1995, je suis une jeune fille célibataire qui vit sa sexualité très librement. Je fais à côté, j'ai des hobbies qui sont la photo. Je fais ça vraiment pour mon plaisir personnel. Et j'ai pour principe de profiter de toutes les opportunités qui me sont offertes, en fait. J'ai envie d'explorer mon corps, sachant que je n'aime pas mon corps, je ne me plais pas. J'ai des rondeurs, donc fatalement, j'ai un peu de mal avec les stéréotypes de l'époque. Et j'ai besoin de me rassurer sur mon pouvoir de séduction. Ça m'amène à avoir des expériences qui ne sont pas forcément du commun des jeunes filles de mon âge, parce que je vais me retrouver dans des plans un peu libertins, des expériences sexuelles à plusieurs, enfin voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand même déjà à l'époque. J'ai 25 ans et moi je regarde la télévision et je vois cet homme qui m'interpelle par son travail. Je respecte beaucoup son travail. C'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel. C'est quelqu'un qui m'impressionne énormément, qui est vraiment à une aura, à une personnalité de fou. J'ai envie d'en connaître plus sur lui. Il y a un meeting pas très loin qui va me permettre de le rencontrer. Je me dis « ouais, j'y vais ». Donc je vais à ce meeting, il y a beaucoup de monde, il y a du public, il y a des intervenants sur scène. Lui est en train, donc lui passe de l'un à l'autre des intervenants. Il y a énormément de monde, mais c'est lui qui remplit tout, quoi. À ce moment-là, il me voit. Enfin, moi, je pense pas qu'il me voit, mais ses yeux balaient, donc fatalement, à un moment donné, il croise les miens. Moi, je suis pétrifiée et j'ai l'impression qu'il regarde de plus en plus. Et là, je me sens toute petite, toute recroquevillée, toute chose, et c'est assez déstabilisant comme sensation. Je pense que je veux garder quelque chose de physique de ce moment-là. Je suis photographe amateur à l'époque, et au fur et à mesure où je le vois s'exprimer, dans ma tête, je me dis, il faut que je trouve un moyen pour le prendre en photo. Un truc complètement fou, je décide de l'attendre à la sortie, vraiment comme une midinette, quoi, comme une groupie qui attend la star à la sortie des loges. Et je passe par plusieurs états où je me dis, mais je suis complètement ridicule, il va me trouver débile. Et à un moment donné, il sort. Voilà, bonjour, j'ai assisté au meeting. Et là, vraiment, je me liquéfie à l'intérieur, mais c'est le moment ou jamais, quoi. J'aurais que cette occasion-là. Donc, je dis, bah voilà, j'ai assisté au meeting et j'admire énormément votre travail et j'aurais voulu savoir si je pouvais vous prendre en photo. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de la photo ? Je vous rassure, je vais vraiment rien en faire, c'est juste pour moi, c'est garder une trace. Il dit, bon, bah d'accord, vas-y, fais ta photo. Et là, j'ai fait la pire photo de ma vie. On le reconnaît absolument pas dessus. Et là, il me demande, mais dit, il est super tard. Tu rentres comment ? Ben, je dis, ben, mon hôtel est pas très loin. Donc, il me dit, non, mais je te ramène. Non, mais je dis, non, vous embêtez pas, je vais y aller à pied, c'est vraiment pas loin. Non, c'était pas une question. Je te ramène, je te laisse pas toute seule. Et donc, je monte dans sa voiture et il me ramène à mon hôtel. Et c'est là qu'il me dit, je t'ai vu tout à l'heure, c'était toi qui étais à tel rang. Ouais, il dit, j'ai vu, je t'ai vu. Et là, je me dis, mais comment il a pu me voir parmi tout ça, quoi, parmi tous ces gens ? Il me ramène à mon hôtel. Je dis, je vous propose pas un dernier verre, ça fait ridicule. Et lui me dit, si, je veux bien. Et donc, il va monter avec moi dans ma chambre et on va passer une partie de la nuit ensemble. Pendant cette première nuit, il va être très directif. Je me laisse porter par sa voix, je me laisse porter par ses ordres. Et ce fait de me laisser porter, c'est un peu mon premier lâcher-prise. Et je passe un moment de folie. Et c'est une nuit qui va être bouleversante. C'est une découverte totale de plein de choses, des choses qui me plaisent, des choses qui font écho en moi. Et je ne sais pas que c'est du BDSM, encore. Oui, j'ai envie de continuer, mais j'ai envie de continuer avec lui. Et à la fin de cette partie de nuit, quand il s'en va, il me demande mon numéro de téléphone. Je lui donne en me disant, il ne va jamais me rappeler. Une quinzaine de jours après, il me rappelle. Il est toujours très synthétique quand il parle. Il n'a que rarement des paroles qui ne servent à rien. Et à chaque fois qu'il s'adresse à moi, je me redresse, je me mets droite et je l'écoute. Et donc, il me dit tout de suite, j'ai une soirée chez des amis. Si ça vous dit, je vous y emmène. Alors moi, je lui explique que j'ai pas trop les moyens de venir sur Paris. Et là, il me dit, je ne t'ai pas demandé de payer, je t'ai demandé de venir. D'accord. je ne peux pas lui dire non. Et donc, il m'explique que ce qu'il a ressenti chez moi, c'est une certaine ouverture d'esprit et que j'étais capable de comprendre ce genre de soirée. Et donc, je vais prendre ce train et j'ai l'impression de partir complètement vers l'inconnu. On va à cette soirée, qui est en fait une soirée qui sera une soirée libertine. Moi, je n'ai jamais assisté à ça. C'est assez particulier. Les gens sont d'une aisance terrible. On a ce dîner et après, tout se passe très normalement, comme un dîner lambda. Et c'est après le dîner, on pousse les meubles, ils installent des matelas par terre, ce qui fait que ça fait une énorme plage de matelas au milieu du salon, on pousse les meubles. Et bien entendu, il m'a bien dit avant qu'il n'y avait rien d'obligatoire, qu'on n'était pas obligé de participer. Il m'avait emmené surtout pour que je voie ce que ça pouvait être, une soirée libertine. Et là, moi, je me blottis contre lui, et il y a sa main qui me tient, et je me sens extrêmement rassurée. J'aime ce que je vois et je trouve ça excitant, je trouve ça bouleversant et ça me plaît. Et à la fin de cette soirée, il ne va rien se passer. Enfin, moi, je ne vais pas pratiquer avec les autres personnes. Et on va sortir. Et là, il me demande si ça va, si je vais bien, ce que j'ai ressenti. Et c'est le lendemain qu'il me dit, je pense que tu as compris que moi, j'avais des rapports un peu particuliers dans le sexe. Il y a cette partie libertine, mais il y a une autre partie que tu as déjà pu voir aussi sur la première soirée, qui est le BDSM. Moi, je suis dans un rapport sadomasochiste. Moi, je suis une personne dominante. Si tu veux en savoir plus, je vais t'expliquer. je sens cette nature de dominant et sa nature de dominant fait résonner en moi ma nature de soumise, en fait. Même si j'ai pas encore les mots, même si j'ai pas encore les codes ou quoi que ce soit. Après cette soirée-là, donc, en fait, on se voit dans un café et on va vraiment mettre à plat tout ce dont je pourrais avoir envie, les pratiques qui m'intéressent, les pratiques qui me font peur. On va lister tout ça. Il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. Donc, il y a le fouet, il y a les martinets, il y a des barbelés aussi, donc ça, c'est non. Il y a ce fameux décapeur thermique qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Bien entendu, ça, c'est non, sans appel. Et on va lister comme ça toutes les pratiques, oui, non, j'ai envie, j'ai pas envie, pour vraiment mettre tout à plat de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte pas. Et à la fin de cette checklist, qui prend un bon moment, parce qu'il y a plusieurs pages, il me regarde dans les yeux et il me dit « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?» Il dit, normalement, il dit « C'est toi qui dois me demander. » Mais il dit « Comme t'es novice, il dit, c'est moi qui vais te poser la question, parce que tu ne sais peut-être pas. Est-ce que tu voudrais faire ce chemin-là avec moi? Est-ce que tu voudrais être ma soumise ?» Et là, je lui dis « Oui. » Il me dit « Bah donc, dis-le. » Et donc, je lui dis « Oui, je veux être votre soumise. » Et c'est à ce moment-là où notre relation vraiment de maître à soumise va commencer. Le week-end se termine, je rentre chez moi et là, par contre, on va se parler régulièrement au téléphone. Il y a quelque chose qui l'insupporte, c'est d'appeler dans le vide, sachant qu'on est dans les années 90, le téléphone portable n'existe pas encore, donc il me fait livrer un répondeur. Un jour, donc, j'arrive et j'ai le répondeur qui clignote. Je l'appelle et il me dit « Si tu es disponible, j'ai une soirée chez des amis où tu vas découvrir ce que ça peut être qu'une soirée BDSM. » De toute façon, il dit « C'est toi qui mènes la danse. Si tu veux, on pratique. Si tu veux juste regarder, on regarde. On ne fera rien que tu n'auras déjà accepté. » Donc, il m'envoie les billets de train. J'arrive à la gare et là, je vois que c'est lui qui est venu me chercher. Donc, il m'emmène à l'hôtel pour me préparer. Et bon, c'est un super chouette hôtel. Pareil, moi, c'est des endroits que je ne connais pas. C'est luxueux sans être ostentatoire. C'est très simple, en fait. C'est très classe, comme on pourrait dire. On monte dans la chambre. Et là, il nous fait livrer donc différentes tenues. Et il me dit, bah, tu vas les essayer. OK, d'accord. Donc, moi, je fais pour les essayer. Et il me dit, non, mais là, devant moi. Pas toute seule dans la salle de bain. Tu les essayes devant moi. Et là, à ce moment-là, je commence à me prendre au jeu et je me sens belle, même nue devant lui, alors que lui est assis, il n'a même pas retiré son manteau. Donc, il est assis dans le fauteuil, il me regarde. J'essaye les robes, donc il y en a des longues, il y en a des courtes, il y en a qui n'ont pas de dos. J'essaye une jupe et un haut. La jupe, elle est très, très courte. Bien entendu, il n'est pas question de mettre des sous-vêtements. L'ensemble est extrêmement indécent, puisqu'on voit la naissance de mes fesses, on voit l'échancrure de mes seins. Je ressemble presque à une prostituée, mais j'en suis très fière. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens belle. Et dans son regard, comme je vois qu'il a l'air ravi de ce qu'il regarde, ben je me sens bien. On sort de Paris, on est dans la banlieue, mais vraiment la banlieue où on commence vraiment à être dans la campagne, en fait. Et on arrive devant cette bâtisse, qui est magnifique. C'est relativement grand, mais ce n'est pas non plus un château. Et donc, il y a tout ce parc autour avec les arbres. Il fait noir, donc il y a des ombres. Et j'avance vers la maison qui est éclairée. On sonne. C'est un majordome qui nous ouvre, en fait. Il prend les manteaux et là, on avance. Et la décoration, alors, c'est très luxueux, en fait. On sent que ce sont des choses de prix, que ce sont des choses de goût. Je me dis, waouh, c'est un milieu que je ne connais pas du tout, qui m'est totalement étranger, où je me sens perdue, mais en même temps en confiance parce que je suis avec lui. Et tant qu'il est là, tout va bien. On nous conduit vers l'escalier qui descend. Et là, on descend dans la cave. L'atmosphère change complètement. Je vois des mobiliers en cuir, du velours, du cuir rouge, du cuir noir. Il n'y a pas foule, mais il y a quand même pas mal de monde déjà, des gens que je ne connais absolument pas. Certains sont masqués, d'autres non. Il y a des personnes qui sont habillées tout en cuir. Je sens l'odeur de sueur, l'odeur de sperme. Il y a de l'odeur de cyprine, il y a de l'odeur du cuir. Il y a les parfums des personnes qui se mélangent. Et je sens tout ça et ça donne une odeur très capiteuse. Rien que l'odeur met dans l'ambiance, en fait. Je regarde partout. Il y a des femmes qui sont habillées tout en cuir, il y a des femmes qui sont habillées de très belles robes, de prix aussi, et il y a des personnes soumises qui servent de repose-pied, il y a des femmes qui servent de siège aussi, de table. C'est tellement nouveau pour moi que je me cramponne à lui. Et donc il m'emmène, il me fait visiter les différentes pièces. Donc il m'emmène dans un petit recoin où il y a une personne soumise qui est attachée à une croix de Saint-André et où son maître la flagelle avec des martinets. Donc à la suite de cette flagellation, où là je me suis sentie excitée parce que j'avais vraiment, là c'est de voir le début, la séance complète de flagellation m'a beaucoup mis dans l'ambiance et m'a en effet excitée. Et là il me dit, si tu veux, si tu es d'accord, il dit j'aimerais te faire ta première séance par un acte qui est très symbolique, qui ne te fera pas mal. Je voudrais te raser le pubis devant tout le monde. Je prends même pas le temps de la réflexion. Je dis, bien, oui, maître. Et donc, il va voir donc, la maîtresse de maison, elle prépare, et là, elle revient avec un bol, avec un rasoir droit, un blaireau. Je me déshabille donc là, non seulement devant lui, mais devant toute l'assistance, parce que pendant que moi je me déshabille, lui il explique que je suis une novice, que je n'y connais rien, que je découvre le milieu avec lui, et là qu'il va me raser pour ce premier acte de soumission. Je me place donc devant le banc, il me prend la main, il m'y amène, il m'aide à m'allonger. Je monte à califourchon sur le banc, et là il m'attache donc les mains et les pieds le long du banc affaissé, me disant de toute façon c'est surtout pour que tu ne bouges pas, pour que je ne risque de ne pas te blesser, en fait. Je suis sur le dos, j'ai les bras et les jambes accrochés sur le bas du banc, donc ça fait un peu comme une grenouille de laboratoire, en fait, et je suis complètement à sa merci, en fait. Et donc, il explique aux autres personnes que s'ils veulent s'approcher, qu'il va procéder à mon rasage. Donc là, il prépare le savon avec le blaireau et dans le bol avec le savon à barbe. Il a un rasoir droit, donc moi, je vois le rasoir droit, je me dis, mon Dieu, il pourrait m'égorger avec ça. Il y a beaucoup de choses qui s'échangent dans nos regards et il sent mon inquiétude. Et il me sourit, il me dit, t'inquiète pas, je sais très bien le manier. Je repose la tête en arrière et je pense que c'est aussi le but de cette position, c'est de fait que je ne puisse plus regarder complètement. Et lui tourne autour de moi et vient accrocher mon regard et il me regarde et me dit ça va, oui je vais bien. Il dit bon je vais commencer. Et là moi je me sens mais d'une vulnérabilité totale et en même temps totalement en confiance et j'ai pas peur. Je sens qu'il passe le blaireau sur mon pubis, sur mes parties intimes, donc sur les grandes lèvres. Je sens la caresse du blaireau au passage avec le savon. Et c'est une partie qui est très fine, donc je ressens vraiment tout. Et le fait d'être dans cet état d'esprit, j'ai l'impression que les sensations sont décuplées. C'est très sensuel et je le sens tourner autour de moi pour vraiment mettre du savon partout où il doit y en avoir. Et là, je sens que la lame se pose donc sur mon pubis et j'entends et je sens en même temps les premiers poils qui se coupent. Vraiment, les sensations sont totalement décuplées. Et le fait de ne pas pouvoir voir décuple encore plus. Et là, vraiment, je sens ce passage du rasoir qui est très doux, où il prend vraiment son temps pour couper chaque poil, pour vraiment raser correctement. Et il passe. Il repasse. Et c'est vraiment, c'est un moment qui est totalement hors du temps. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Parce que moi, je suis complètement dans ma bulle. Et je lui suis totalement, mais vraiment totalement soumise à ce moment-là. Et je vis mon premier lâcher prise. Je suis vraiment totalement à lui. Et où je ne vis que l'instant présent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est juste la sensation du moment et où je sens ce rasoir qui passe et repasse pour retirer toute la pilosité que je peux avoir sur mon entrejambe. Et à aucun moment, il ne touche, que ce soit avec sa main ou que ce soit avec le blaireau, il ne touche mon clitoris. Mais je pense que s'il l'avait touché à ce moment-là, je pense que j'aurais pu jouir, quoi, parce que j'étais tellement excitée et je suis totalement partie dans le moment. Je vis, mais à 1000% l'instant présent et les sensations, cette caresse du métal que je sens, puisqu'il le rince régulièrement et l'eau est froide. Et c'est vraiment, c'est bouleversant aussi. C'est vraiment bouleversant. Nos regards se croisent régulièrement quand il vient à côté de moi. Je suis dans un état de béatitude. Je m'abandonne complètement. Je vis le moment. Il y a des tas de gens autour de nous. Ils m'expliquent après qu'il y a d'autres gens même qui sont arrivés après. Mais moi, je ne vois plus personne. Le monde n'existe plus. Il y a juste lui, moi, le rasoir et l'instant qu'on est en train de vivre, en fait. Arrive donc la fin du rasage, il me rince, il m'essuie, et là il me détache, il m'aide à me relever, il me demande « ça va ?» Moi j'acquiesce. Et là donc il m'emmène sur un sofa un peu plus loin, et va se passer ce qu'on appelle l'aftercare, qui est ce moment où on prend soin de la personne soumise après le moment de soumission. Là où, à l'instant d'avant, tout était très précis et décuplé, là, au contraire, je suis dans une espèce de ouat. Et rien ne peut m'atteindre. Et donc, il me prend dans ses bras, il me réchauffe, il me caresse de manière très chaste, mais juste pour me faire renouer avec mes sensations. Et je reviens tout doucement, je reviens à la réalité de cette pièce et je réentends normalement les choses et je peux reparler aux gens et je vais pouvoir renouer comme ça avec moi et remonter de là, de la profondeur où il m'a emmené, la profondeur sensuelle où il m'a emmené juste avant, en fait. Et après, donc, on sort de la maison, on remonte dans la voiture, et là, il me dit « je vais te ramener à ton hôtel, est-ce que tu me permets de passer la nuit avec toi ?» Alors bien sûr, je lui dis « oui », et il dit « par contre, il dit, je te préviens, on fera pas l'amour ». Ça me paraît tellement superficiel de faire l'amour avec quelqu'un quand on a vécu ce qu'on a vécu juste avant. Et là, on est vraiment dans une douceur, dans de la tendresse. C'est très pur, ça peut paraître un peu bête à dire, mais c'est très pur. Et je vais dormir comme j'ai jamais dormi, je crois. Cette première séance, ce qu'elle va changer, c'est mon rapport à mon corps. Parce que du coup, je sais que je peux être belle dans le regard de quelqu'un. Et être belle à des moments où je suis totalement vulnérable, où je ne contrôle rien. Ça m'a donné envie d'aller plus loin, mais le réel changement va se faire vraiment sur un espèce de chemin initiatique, très voilà, de découverte, très progressive avec lui. Donc après cette séance-là, pendant un an, on va se voir régulièrement. Il va m'emmener dans des endroits très variés, en club, chez des amis. Et il va vraiment me faire complètement découvrir le milieu, mais aussi moi-même. Et au bout de 6 mois, il me dit « Maintenant, tu es capable de porter mon collier, puisque tu es capable de me faire honneur aussi bien en ma présence qu'en dehors de ma présence. » Et moi, là, je me sens mais d'une fierté. C'est lui qui choisit le collier, mais en fonction de mes goûts. Et on va faire une cérémonie chez des amis où il va me poser le collier. Et où donc, officiellement, je deviens sa soumise. Notre relation va encore durer plusieurs mois, comme ça. Et il était clair dès le départ que nous n'aurions pas d'enfants ensemble, qu'on ne serait vraiment jamais un couple vanille, du coup, à la ville, qu'un couple classique. J'ai 25 ans, je vais sur mes 26, j'ai envie d'avoir des enfants. Et comme je sais que ça n'est pas possible avec lui, eh bien, je rencontre une personne qui n'est pas du tout dans le milieu BDSM. Je sens qu'il va pouvoir y avoir là, éventuellement, un avenir. Et donc, à ce moment-là, je décide de lui rendre mon collier. Je le détache, moi-même, alors que pendant toutes les séances, c'est lui qui me le met. Et là, il me dit, non, c'est le tien, tu le gardes. Et je lui dis, non, je peux pas, c'est votre collier, c'est à vous. Et là, il me reprend le collier, il me dit, d'accord, ok, je le reprends. Mais il dit, sache qu'il ne sera jamais à aucune autre. Le jour où tu veux revenir, ton collier t'attendra, il sera toujours à toi. Et on ne va jamais se revoir, mais on va continuer à s'appeler régulièrement et on va garder une relation amicale de loin en loin. Cet homme-là, clairement, ça a été un mentor pour moi. Ça a été mon maître, mais ça a été surtout un mentor. Et il y avait vraiment cette sagesse et cette façon de voir le monde qui m'apportait énormément. Et si j'ai arrêté longtemps le BDSM, c'est parce qu'en fait, je ne me voyais pas reprendre une relation BDSM si ce n'était pas avec lui. Après, voilà, j'ai une vie vanille, j'ai eu ma fille, j'ai vécu des expériences et j'ai réussi à renouer avec le BDSM parce que lui déjà était décédé. Et petit à petit, parce qu'on me demandait de témoigner, parce qu'on me demandait d'expliquer des choses justement à des novices par rapport à la montée de 50 nuances degrés et compagnie, où les gens n'avaient pas une vision saine du BDSM, on m'a demandé donc de parler de ça et j'ai renoué avec le BDSM et j'ai renoué avec ça. J'ai eu un maître il y a quelques temps, ça s'est terminé malheureusement, mais le BDSM m'a apporté énormément de choses dans l'acceptation de moi, dans l'acceptation de mon corps, d'accepter que même si un corps n'est pas dans les standards actuels de beauté, il est beau aux yeux de certaines personnes. C'est ce que va exprimer ce corps qui est beau. C'est la dévotion. C'est l'envie, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment tout ça qui rend la personne belle. C'est l'état d'esprit qui rend la personne belle.
Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Barbara Pucheux. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.